On va continuer à parler de ces blocus autochtones parce que, écoutez, il y a, vous l'avez peut-être vu là, à Belleville, la police provinciale de l'Ontario est intervenue contre les Mohawks qui agissaient là-bas, qui faisaient un blocus en appui à la nation Wet'suwet'en de Colombie-Britannique. Action, réaction, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu des barricades qui ont été érigées aujourd'hui à Kanesatake. Et aussi, il y a eu une sorte de simili-blocus qui a eu lieu sur le pont Mercier. Le journaliste du quotidien The Gazette, Christopher Curtis, se trouve présentement derrière les barricades à Kanesatake. À l'intérieur de la réserve, il vient tout juste aussi de parler avec Hélène Gabriel. C'est un territoire que Christopher Curtis connaît bien, Ganawake et Kanesatake. Donc, on le rejoint au bout du fil. Salut, Chris.
Salut, Patrick.
Donc, Christopher, avant, là, donne-nous, s'il te plaît, une sorte de cours de Kanesatake, Ganawake 101. Ce sont des Mohawks qui habitent ces territoires. Qu'est-ce que les Québécois ne connaissent pas ou connaissent mal de ce peuple-là?
Bon, en partant, ils habitent, ou dans le fond, on habite sur le territoire traditionnel Mohawk non cédé. Il y a eu des ententes dans le temps des Sulpiciens, il y a à peu près 300 ans, qui ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de territoire aux alentours de Montréal, aux Mohawks de Ganassatake, ça c'est sur la rive nord. Les ententes n'ont jamais vraiment été respectées. Alors, depuis ce temps-là, les Mohawks résistent souvent à comme en 1990, il y a eu
la crise d'Oka.
On voulait construire, exact, la crise d'Oka. On voulait faire une expansion à un golf, puis des condos, puis ça a vraiment mal viré parce que c'était directement sur le territoire Mohawk. On a vu des mini-crises au fil des ans où les Mohawks sur la rive sud ont bloqué le pont Mercier. Il y a tout le territoire qu'ils réclament, mais il y a leur territoire. Puis à l'intérieur de leur territoire, vraiment, règlement numéro un avec les Mohawks, c'est qu'on est souverain, c'est notre territoire. La police de l'extérieur ne va pas venir nous dire comment vivre ici. Alors, ce qui s'est passé à Thayendanegea, qui est une autre communauté Mohawk pas loin de Belleville, quand la OPP, ils sont rentrés pour arrêter les manifestants, pour les Mohawks, c'est comme un acte de guerre. C'est de carrément violer la souveraineté Mohawk. Et en réponse, tu as eu deux réactions très rapides, une à Ganawake, une à Ganassatake. Et si ça se règle pas, on pourrait aussi voir des actions à Akwesasne, qui est une réserve qui côtoie le Québec, le New York et l'Ontario. Alors, les Mohawks ont un gros pouvoir politique, puis ils ont vraiment une tradition de résistance, mais ils s'en servent pas à la légère. Ils vont pas faire des actions directes comme ça sans vraiment avoir une raison, parce que ça met beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur la communauté. Sur la rive sud, il y a eu beaucoup de violence contre les Mohawks. Évidemment, il y a eu la crise d'Oka en 1990 qui a vraiment traumatisé plusieurs dans la communauté. Et pour nous, il y a 30 ans, mais pour eux autres, c'est comme si c'était hier.
Je comprends. On parle avec Christopher Curtis, qui est journaliste au journal The Gazette. Il se trouve présentement derrière les barricades dans le territoire de Kanesatake. Chris, comment est-ce que tu as réussi à te rendre derrière les barricades?
Il y a à peu près une dizaine d'années, je travaillais pour un journal Mohawk qui s'appelle The Eastern Door. Et mon éditeur dans le temps, qui est encore l'éditeur en chef du journal, Steve Bonsfield. On est des bons amis. On a fait des bonnes connexions au fil des années. Fait que je l'ai accompagné. Ils nous ont laissé passer. Même pour vous donner une idée, personne ne passe à travers la réserve sans l'autorisation, soit des manifestants ou de la société des Warriors. C'est vraiment, on a vraiment le contrôle de qui rentre et qui sort du territoire. Même, il y a un Warriors qui est venu me voir assez agressivement, puis il a dit que c'était l'heure de quitter, alors je me dirige vers la sortie. mais ouais. mais ça démontre un peu à quel point ils ont le contrôle sur leur territoire, puis à quel point ils prennent ça au sérieux.
Qu'est-ce que tu as pu voir derrière les barricades qu'on ne peut pas voir présentement?
Alors, la communauté de Ganassataqué, c'est une communauté d'à peu près 1 ou 2 kilomètres de large, mais qui longe l'arc des deux montagnes pendant peut-être une dizaine de kilomètres. Et ce qui fait que vraiment, c'est la route 344 pour eux autres, c'est leur économie. Alors, quelqu'un va passer, arrêter, mettre de l'essence dans leur voiture, ils vont arrêter à un des dispensaires de cannabis ou à une des shops de tabac pour acheter du produit. Ça, c'est leur économie. Alors, en arrêtant tout le trafic qui passe au travers de la réserve, ils ont effectivement arrêté leur propre économie. Ils se font mal à eux autres en ce moment. C'est vraiment, il y a pas un chat qui se promène sur les rues. Alors, ce qu'on voit, c'est que t'as 4 ou 5 barrières, si on veut, des blocus. Et entre les blocus, t'as des messieurs avec des cagoules sur des 4 roues motrices qui se promènent de barrière en barrière, qui font de la contre-surveillance sur la SQ. Ils vérifient pour voir si la SQ se rapproche trop. Ils surveillent les avions de la SQ qui passent au-dessus de nos têtes. C'est vraiment, vraiment organisé. Il y a beaucoup de communication entre toutes les barrières. Puis tantôt, il y avait eu une voiture qui venait se rapprocher. Et le blocus, c'était juste une couple de personnes sur la route. Et ils ont changé ça tout de suite. Ils ont amené 3-4 vannes pour vraiment bloquer le chemin. Puis ils ont dit à la personne, désolé, mais il faut que tu retournes de bord. Il faut que tu trouves un autre chemin pour contourner notre réserve. Il y a des chemins pour contourner la réserve, mais c'est quand même compliqué.
Christopher, on parle avec Christopher Curtis du journal The Gazette, qui connaît bien les Mohawks de Kanawake et Kanesatake, et qui est présentement derrière les barricades. Christopher, dis-moi, quand on pense à Kanesatake, on pense au chef Serge Simon, qu'on a souvent vu dans les médias, oui. Mais c'est pas parce qu'il a le titre de chef qu'il est le patron de toute la réserve et qu'il décide tout ce qui se passe là-bas, non?
Non, c'est une très bonne observation. Puis c'est quelque chose qu'on comprend peut-être pas avec nos cerveaux européens. C'est que oui, les chefs de bande à travers le Canada qui sont élus par le peuple, ce système-là a été créé par la loi sur les Indiens dans les années 1870. La loi sur les Indiens a été effectivement, on a créé cette loi-là pour éliminer les Autochtones, pour éventuellement assimiler les Autochtones. Alors, dans la communauté, on voit souvent les chefs élus comme faisant partie d'un système qui aurait pour but d'éliminer les Autochtones. Alors, on reconnaît pas la légitimité du chef, souvent. Ou bien le fait que cette personne-là soit grand chef fait pas l'unanimité à l'intérieur de la communauté. Alors, à Ganawagi, puis dans toutes les communautés Mohawk, on a un autre système. C'est le système des Clan Mothers. Et ça vient de la Confédération Haudenosaunee, la Confédération Iroquois. Et ce système-là, c'est des mères, des Clan Mothers qui viennent des clans. C'est eux autres qui choisissent les chefs. Et ils ont le pouvoir, si un chef ne fait pas bien sa job, ils ont le pouvoir de l'enlever. Alors, si on regarde les élections, admettons, à Ganassataqué, c'est peut-être une centaine de personnes dans une communauté de 1700 qui vont voter dans l'élection, ou 150 personnes, admettons. Alors, la grande majorité ne participe pas dans ces élections-là parce qu'ils ont ils font plus confiance au système de la Confédération Haudenosaunee qui dure depuis 1000 ans. Fait que notre démocratie au Canada, ça a à peu près 200 ans, si on compte un peu avant la Confédération. Mais leur démocratie à eux autres, ou leur système politique à eux autres, date de 1000 ans. C'est souvent ça le cas dans les communautés autochtones. On oublie que notre système, on l'a imposé sur eux autres, puis c'est pas tout le monde qui va l'accepter.
Christopher, parle-moi, t'as parlé tantôt de membres de la société des Warriors là, que t'as pu voir à l'intérieur du territoire de Kanesatake. Quand on pense au Québec aux Warriors, on pense à l'affrontement avec la Sûreté du Québec en 90, avec l'armée aussi, quand l'armée a été envoyée. C'est quoi la société des Warriors?
C'est compliqué comme question parce que souvent on a la conception des Warriors comme étant des bandits qui protègent une sorte de mafia Mohawk. Écoute, il y en a à l'intérieur dans n'importe quelle société, il existe des bandits Mohawk. Et oui, certains d'entre eux font partie de la société des Warriors, mais la grande majorité, c'est du monde bien ordinaire qui considèrent que c'est leur devoir de défendre leur territoire. Alors là-dedans, j'en connais qui sont des éducateurs, mécaniciens. Il y en a un qui fait du bénévolat avec les itinérants à Montréal. C'est vraiment du monde ordinaire qui, dans une situation d'urgence, sont appelés à défendre le territoire. Le mot pour warrior dans la langue Kanyagahaga, qui est la langue Mohawk, ça se traduirait directement en celui qui a le devoir de la paix. Fait que c'est pour eux autres, ils ne voient pas ça comme étant nécessairement quelque chose d'agressif.
Parce que warriors, Christopher, ça se traduit par guerrier. Ce que tu dis, c'est qu'en langue Mohawk, il y a une connotation qui est moins guerrière, c'est ça?
Oui, exactement. C'est plus politique. C'est plus un devoir.
OK. Donc, mais en dehors de situations de crise, la société des Warriors n'a pas d'activité, c'est ça?
Ben, ils peuvent se rencontrer, ils peuvent avoir des réunions juste pour savoir, dans le fond, comment les choses se déroulent dans la communauté, mais c'est vraiment, ils sont appelés quand les choses vont mal.
OK. Christopher, tu connais cette communauté-là. Tu nous as parlé de solidarité Mohawk, là, les Mohawks du Québec qui agissent aujourd'hui avec ces barricades en solidarité avec les Mohawks de Belleville qui ont été expulsés de leur blocus par la police provinciale de l'Ontario. D'après toi, ça peut durer encore combien de temps? D'une part, les blocus sur la route 344 et d'autre part, le blocus sur le chemin de fer à Kahnawake.
Alors, c'est difficile à dire. Premièrement, le blocus sur le chemin de fer à Kahnawake, ils font très attention. Il n'y a pas vraiment un blocus, c'est comme un encampement à côté du chemin de fer, mais les chemins de fer passent pas parce qu'ils savent que s'ils essayaient, il y aurait probablement un blocus. Mais ça pourrait durer... À Kahnawake, j'ai l'impression que ça va durer jusqu'à ce qu'il y ait une résolution avec le gouvernement fédéral. Les blocus à Ganassatake, c'est un peu plus compliqué. J'ai parlé avec Ellen Gabriel. Elle m'a dit que ils pourraient terminer ça ce soir. Ils pourraient terminer ça quand ça leur tente. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent démontrer aux communautés qui entourent Ganassatake qu'ils ont les ressources, puis ils ont les habiletés, puis ils ont la volonté de fermer leur propre communauté à l'extérieur, au monde extérieur, si ça leur tente, puis si s'ils trouvent que c'est justifié pour corriger ce qu'ils trouvent à être une injustice.
Très intéressant, très intéressant. Merci beaucoup, Christopher Curtis.
N'importe quand, man. Merci, merci de m'avoir eu sur l'émission.
Merci, Cour. Très intéressant de Mohawk 101. C'était Christopher Curtis, un journaliste de The Gazette, vous l'avez entendu. Christopher connaît bien la communauté Mohawk, tant à Kahnawake et Kanesatake. Il a travaillé dans un journal à Kahnawake et il est un des rares journalistes à avoir pu aller derrière les barricades aujourd'hui à Kanesatake, 16h21.